Vous êtes sur RTL.
Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Est-ce qu'Éric Zemmour est traité de la même manière que les autres candidats à la présidentielle? C'est notre question. On la pose à Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Pascal.
Votre sentiment?
Mon sentiment, il est simple. Il n'est pas du tout traité comme les autres candidats. Et pour moi, ce qui s'est passé hier, c'est une pratique d'un faux journalisme partisan.
Eh bien, nous allons parler de cela dans quelques secondes, mais le rappel des titres avec Amandine.
Et à la une, les militants LR qui ont commencé à voter pour choisir leur candidat pour cette présidentielle, justement. Début du premier tour ce matin en ligne, depuis 8h. La clôture des votes, ce sera à 14h demain. À midi, on était à 25,4% de participation parmi les 140 000 inscrits. Résultat de ce premier tour, ce sera dès demain à 14h30. Et puis du côté du Covid, l'inquiétude de retour dans les hôpitaux français. Sur RTL, le chef du service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière à Paris dit voir affluer un grand nombre de malades depuis le week-end. Ça flambe, dit-il. Dans le même temps, Pfizer-BioNTech annonce que son vaccin pour enfants sera disponible dans l'Union européenne dès le 13 décembre. Hier, je vous le rappelle, la haute autorité de santé ici en France a recommandé ce vaccin pour les enfants les plus à risque, les 5-11 ans les plus à risque. Notre météo du jour, avec vous Peggy. Alors c'est moins froid, mais c'est plus moche.
Exactement, c'est bien résumé en fait. C'est vrai que les températures remontent un peu, ça fait du bien. 6 à Grenoble, même si ça reste frais, mais c'est toujours mieux que la veille. 8 à Nancy, 10 à Orléans, Paris, Reims, Caen, à Nîmes également. 11 à Brest, Toulouse, 12 à Biarritz et 15 à Nice. Alors, vous l'avez dit, c'est plus moche, c'est un temps perturbé, avec le gros des pluies qui se décale actuellement assez rapidement d'ailleurs entre les Pyrénées et les frontières de l'Est. La limite pluie neige remonte à 1200 mètres puisque c'est moins froid. Seules les régions à l'écart des pluies, les seules régions à l'écart, c'est la Côte d'Azur, les Pyrénées-Orientales et l'Est de la Corse, autant vous dire pas grand-chose. Partout ailleurs, sur l'ouest du pays, ce qu'on appelle une traîne sous un ciel variable, ponctuée d'averses entre nuages et éclaircies, et avec du vent, elle est peut-être un peu moins d'averses entre le Sud-Bretagne et la Vendée.
Et pour demain, retour du froid donc. Hein,
voilà, c'est une accalmie très courte au côté froid. On pourra perdre 3 à 5 degrés par endroit pour les maximales. Quand même, ouais. Elles seront globalement comprises entre 4 et 9 degrés sur l'ensemble du pays. De 11 à 14 près de la Méditerranée. Le ciel sera bien nuageux avec des averses des Pyrénées au Massif central jusqu'aux frontières de l'Est. De la neige du coup à basse altitude à nouveau, voire en plaine sur les frontières du Nord. Et un temps plus sec, plus lumineux sur l'ouest du pays et beau près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
Merci Peggy, merci Amandine. Et merci à Ludovic Van de Kerckhoff qui était à la rédaction en chef de ce 12h30.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est rare qu'à l'issue d'un entretien entre un journaliste et un candidat à l'élection présidentielle, on parle davantage de l'intervieweur que de l'interviewé. Et il est peu de dire que les questions de Gilles Boulot ont fait réagir les partisans d'Éric Zemmour et Éric Zemmour lui-même. Et c'est un autre débat qui est régulier d'ailleurs. Hein. Est-ce que Éric Zemmour et avant lui Marine Le Pen sont traités d'une manière différente par les journalistes? Charles est avec nous, il est enseignant, Charles?
Oui, tout à fait. Oui.
Alors ce qui est important quand même avant chaque intervention, c'est de dire quelle sensibilité politique vous êtes. Parce que quand j'étais dans le foot par exemple, j'allais à Saint-Etienne et on me disait vous êtes pour le Paris Saint-Germain, et puis quand j'allais à Marseille on me disait vous êtes pour le FC Nantes. Vous voyez, les supporters c'est jamais ceux qui sont les plus objectifs. Alors vous, est-ce que vous êtes un supporter d'Éric Zemmour?
Alors écoutez, moi ce que je peux vous dire c'est que vu ce qui est devenu la gauche et les dérives qui sont les siennes en termes de communication, j'ai du mal à adhérer à ce discours-là, de moins en moins d'ailleurs.
Est-ce que vous êtes un supporter de Zemmour? Est-ce que vous êtes enclin à voter pour lui?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui.
Donc vous êtes un peu partisan forcément, mais je vous le reproche pas d'ailleurs. Hein,
bien non, évidemment. je sais bien, mais enfin on peut être partisan et objectif, vous savez.
Ah, ça je crois pas.
Ah bon? Écoutez, je vous le dis.
Ça me paraît antinomique. Partisan objectif, ça me paraît antinomique, mais je peux me tromper.
On peut être objectif dans la pratique, si vous voulez, dans la façon dont sont menées les interviews, la façon dont M. Zemmour est traité médiatiquement.
Bon, qu'est-ce qui vous a choqué hier? D'abord, on le dit parce que c'est vrai, moi j'ai travaillé avec Gilles Boulot, c'est un excellent confrère, c'est un garçon vraiment de qualité. On ne présente pas le 20h par hasard, il faut le dire en préambule. Mais qu'est-ce qui vous a choqué, par exemple, hier?
Eh bien, écoutez, moi, j'aurais aimé que, justement, être confronté à cette excellence. Moi, je ne l'ai pas vue, cette excellence. Hier, en tous les cas, je ne l'ai pas vue. Je me faisais une joie, d'ailleurs, d'avoir une interview à peu près posée, à peu près objective. Et effectivement, une déclaration de candidature, c'est toujours un moment important pour la démocratie, quel que soit le bord, d'ailleurs, évidemment. Et là, j'ai trouvé quelque chose... Enfin, pour moi, c'était ni du journalisme, ni de l'objectivité, ni quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était très partisan. J'ai trouvé son attitude très prétentieuse. Et là, je pense qu'il a commis deux erreurs grossières. La première, c'est de penser que tout le monde partage la même opinion que lui, et que beaucoup de médias qui font un bashing depuis des semaines et des semaines anti-Zemmour, ça se voit trop. Ça se voit trop pour... et je trouve que c'est d'une naïveté franchement assez confondante et assez crasse. Et ensuite, la seconde erreur, c'est que c'est tellement cousu de fil blanc que ça se voit tellement que, en fait, je crois qu'ils n'ont pas le droit de prendre les Français pour des imbéciles. Et là, ils prennent les Français pour des imbéciles. Parce que si M. Zemmour est à peu près à 15% dans les sondages, ça va fluctuer à la hausse, à la baisse, peu importe, à la limite. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est que quelque part, ces personnes-là, ce type de journalistes, en fait, il n'est pas le seul hein, d'ailleurs, prennent les Français pour des imbéciles. Et les Français ne sont pas naïfs, ne sont pas stupides, c'est pas des enfants. Et c'est pas parce qu'on va orienter de telle ou telle façon une interview, c'est pas parce qu'on va essayer de coincer la personne qui est en face de nous, surtout par rapport à une déclaration de candidature, qu'on va changer d'avis. Et il est là le problème. Et quand je pense par exemple hier, excusez-moi monsieur Pro, mais hier par exemple sur BFM à 22h15, un journaliste qui dit « Ah oui, il semblerait que monsieur Zemmour ait traité de connard Gilles Boulot après son interview, etc. » Mais vous vous rendez compte du niveau, si vous voulez, de l'information. C'est quand même une chaîne d'information continue.
C'est intéressant aussi ce que vous dites, parce que c'est une perception...
C'est digne de la presse people de bas étage. Excusez-moi, c'est pas digne d'une chaîne d'information. C'est pas possible.
Écoutez, je ne sais quel journaliste vous faites référence, mais c'est intéressant d'écouter les auditeurs. Je sais que beaucoup d'auditeurs pensent comme vous, mais en même temps, ceux qui pensent comme vous sont souvent les partisans d'Éric Zemmour. Et d'autres au contraire, hier soir étaient plutôt satisfaits, ceux qui sont anti-Zemmour, parce qu'ils se disaient, voilà, il y a un journaliste sans doute qui lui pose des questions qu'ils auraient aimé, eux, qu'on lui pose. Il est 13h09, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir. Éric Zemmour est-il selon vous traité de la même façon que les autres candidats à la présidentielle ? À peine sorti hier soir du 20h de TF1, il s'en est pris au présentateur Gilles Boulot qui venait de l'interroger.
Monsieur Boulot n'a pas fait son travail. Il s'est révélé un procureur pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, il y a eu maldonne, il y a eu même escroquerie intellectuelle. Monsieur Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères.
Comprenez-vous la colère d'Éric Zemmour ? Êtes-vous choqué au contraire par ses propos ? Est-ce un dérapage ? Est-il vraiment traité différemment ? La réaction de Michel Cotta dans RTL Midi.
Je pense qu'il est traité différemment, mais ou en très bien, hein, ou en étant formidablement soutenu, ce qui a été le cas finalement pendant tout le mois d'octobre. Tout le mois d'octobre, au fond, d'une certaine façon, c'est la presse qui l'a fait exister. Donc on ne peut pas dire que la presse est contre lui. Hier, j'ai trouvé qu'effectivement, l'interview était sans doute trop cursif pour ce qu'on attendait de la déclaration de candidature de Zemmour. Mais je ne pense pas que ce soit une tentation générale de la presse, et même je pense qu'on est très loin de boycotter Éric Zemmour.
Et TF1 a réagi, le journaliste a la liberté de ses questions, l'invité de ses réponses.
La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'hier, c'était une émission de candidature, c'était le jour de sa candidature, et que ce que disait assez bien d'ailleurs Michel Cotta, on aurait pu imaginer que l'interview, comme elle ne dirait 10 minutes, porte essentiellement sur sa candidature. Alors si vous faites une émission d'une heure, c'est différent. Vous pouvez retrouver le passé, lui demander de réagir de nouveau sur des thèmes d'ailleurs dont il avait déjà réagi, sur lesquels il avait déjà réagi. Mais ce qui est étonnant hier journalistiquement, peut-être, c'est que l'interview est assez courte, une dizaine de minutes, et on parle peu de l'actualité, qui est la candidature. Ça, c'est ce que je dis là est factuel. Jamel est avec nous. Bonjour Jamel.
Oui, bonjour Pascal.
Alors, je demandais à Charles tout à l'heure s'il était un partisan d'Éric Zemmour et il nous a dit oui. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes plutôt opposé à Éric Zemmour ou plutôt fan d'Éric Zemmour ?
Non, je suis en totale opposition avec ses idées, avec le personnage. Non, c'est pas du tout mon bord politique d'ailleurs. Je suis plutôt ni à l'extrême gauche, je suis plutôt centriste moi en fait.
Donc ça va peut-être influencer la manière dont vous avez écouté cette interview hier ?
Bien sûr. Alors pour moi, déjà hier, c'était... C'était une interview totalement ratée pour lui, parce que vu la question assez... pour moi, c'était assez simple, hein, parce que pour quelqu'un qui prétend à la présidentielle être candidat, se faire piéger par ses propres... Enfin, son propre piège, parce que c'est un peu le rôle d'Éric Zemmour qui a tenu cette position-là pendant des années aux médias, donc il connaît très bien ce jeu-là. Donc, vu sa réaction, et vu aussi... l'annonce de sa candidature présidentielle avec sa fameuse vidéo, qui est plus pour moi une vidéo de propagande qu'autre chose, avec tout ce qu'il y a dedans.
Ça, c'est toujours de la propagande. Hein, quand tu es un clip de campagne, c'est généralement pour faire.
C'était un peu grotesque, en fait, le montage.
Oui, mais parce que ça ne s'adresse pas à vous. Vous n'êtes pas la cible. Forcément, je comprends que ça ne vous touche pas.
Mais on a le droit quand même d'y avoir un avis.
Et
on a
bien sûr.
Pour ça. Il est totalement.
Et vous avez forcément raison pour vous.
Bien sûr.
Selon la célèbre formule.
Exactement, se prendre pour ce qu'on n'est pas, se comparer à Charles de Gaulle, en faisant des appels, en mettant des images de policiers, de journalistes, que tout le monde le manipule. Enfin bref, pour moi, c'est un sketch de A à Z. Et hier, il a clairement prouvé que le costume est un peu trop grand pour lui, je pense, c'est mon avis. Et voilà, mais je pense qu'il a montré à tout le monde que, sur quelques questions, en plus, elles sont réelles. Hein, parce que
donc, vous avez trouvé que, d'une manière générale, vous ne trouvez pas qu'Éric Zemmour soit traité différemment d'un autre homme politique. Vous trouvez qu'ils sont tous traités, au fond, pareil.
Oui, ils sont tous traités pareil. C'est juste que lui, on a les questions sensibles pour pouvoir le toucher. Et sur lesquels il ne peut pas contourner, il n'arrive pas à contourner, parce que c'est stricte vérité. Quand M. Boulot lui dit « Vous avez été condamné pour un racial, etc. », et c'est ce qu'il va entendre à chaque fois. Et c'est parce qu'en fait, comme a dit une de vos confrères la dernière fois sur la radio, elle a dit que l'entourage de Zemmour, l'équipe de Zemmour, le met tellement dans le confort depuis le début, qu'on lui donne plus d'opposition et automatiquement, quand on commence à lui en mettre un petit peu, il est déstabilisé, il est rattrapé par le réel. Donc, il faudra qu'il s'attende.
Alors, est-ce que Charles veut vous répondre ou pas ? Parce qu'on a eu deux auditeurs qui ont diamétralement des avis différents. Charles, peut-être vous voulez entamer le discours ou le dialogue avec Jamel ?
Mais pour dire quoi ? Est-ce que je suis pas d'accord ? Mais de toute façon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je pense que le bashing anti-Zemmour, de toute façon, c'est le discours est toujours prévisible. Les adversaires ont toujours des discours prévisibles. On connaît cette logorée, on connaît en fait, le problème, c'est qu'on n'oppose pas des idées à Monsieur Zemmour. Zemmour, le problème de ses adversaires, c'est qu'il est brillant, pertinent. Il est très intelligent, il a une culture historique et une culture politique qui est très importante. Et c'est vrai que malheureusement, ses adversaires ne font pas le figure et ils en sont réduits simplement à sortir une phrase par-ci, un scandale par-là, etc. etc. Mais vous savez, ça, ce n'est pas des arguments qui vont faire qu'on ça infléchisse quoi que ce soit. Ce qui va infléchir, c'est argument contre argument. Et en général, c'est ce qui se passe au sein d'un projet politique.
Merci Jamel, sauf si vous voulez rajouter un mot, Jamel.
Oui, je voudrais amener un petit point de précision. En fait, par rapport à Charles, qui je respecte énormément, c'est un professeur, mais moi, pour répondre à ce qu'il a dit, c'est tout simplement, pour moi, pourquoi il n'est pas crédible ? Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux Français ? On ne propose rien, son programme, c'est nettement que de la séparation, de la discrimination, de la haine. Voilà, donc je n'arrive même pas à savoir comment il trouve écho, en fait. Moi, en fait, je comprends pas. Donc, je suis en total droit de dire que je ne partage pas l'idée. Pour moi, c'est un extrémiste. C'est quelqu'un qui est plus là pour diviser et créer des... créer des sectes en fait en France, tout simplement, séparer les gens, puis voilà. Il n'y a pas de rassemblement, il n'y a rien de positif dans son message, et puis voilà, c'est mon point de vue.
Eh ben, c'est formidable que vous puissiez l'exprimer, je vous remercie grandement, Jamel. On va continuer évidemment sur Éric Zemmour, parce que c'est un sujet pour le coup qui divise celui-là. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier. Éric Zemmour est-il selon vous traité de la même façon que les autres candidats à la présidentielle ? Après son interview hier soir sur TF1 par Gilles Boulot, le polémiste parle d'escroquerie intellectuelle, d'interview d'un procureur, Lou Baumier, maire de Gurgis-le-Château en Côte d'Or et soutien d'Éric Zemmour, était l'invité de RTL ce matin.
Manifestement, Gilles Boulot n'a pas souhaité lui laisser le temps de pouvoir exposer ses principales mesures. Il y a eu l'occasion d'ailleurs de le préciser dans la soirée, puisque certains de vos confrères lui ont posé clairement la question, quelle serait sa première décision s'il était élu président de la République. Il a clairement dit qu'il convoquerait un référendum sur l'immigration.
Un autre avis, celui de Julien Odoul, le porte-parole du RN.
On voit d'ailleurs qu'il a du mal à encaisser les coups. Parce que j'ai bien entendu...
Que voulez-vous dire, oui?
J'ai bien entendu hier ses critiques à l'encontre de M. Boulot, mais on ne va pas lui dérouler le tapis rouge. Être candidat à la présidentielle, c'est aussi savoir encaisser les coups, c'est savoir rester calme, c'est savoir rester mesuré, c'est savoir encaisser la critique, l'opposition. Il va falloir autre chose pour un candidat à la présidentielle et on voit bien que peut-être que le costume est trop grand ou mal ajusté pour lui et qu'il s'est trompé de vocation dans ce rôle-là. C'est pas fait pour lui.
Qu'avez-vous pensé de la réaction d'Éric Zemmour, le tout nouveau candidat à l'élection présidentielle 32-10.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir ces prochains jours ce qu'en pensent les Français. Puisque beaucoup de réactions et beaucoup de commentaires, les gens disent au fond les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Alors, parce qu'ils sont souvent partisans, bien évidemment, on est tous comme cela. Donc ça va être intéressant de voir comment les courbes bougent ou pas dans un sens ou dans un autre. Nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Pascal.
Vous êtes formateur, vous habitez la Seine-et-Marne. Vous avez écouté hier l'interview de M. Boulot.
Tout à fait.
C'est drôle d'ailleurs, je dis l'interview de M. Boulot plus que la prestation d'Éric Zemmour. On parle plus de l'intervieweur que de l'interviewé, c'est assez rare.
C'est ça.
Bon,
c'est
qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Moi j'ai pensé que, comme ça a été employé précédemment, M. Boulot était un procureur à charge. C'est-à-dire qu'il a jugé Éric Zemmour sur des propos qui n'étaient pas par rapport au candidat de la présidentielle. Il a reparlé du doigt d'honneur alors que
Il a fait son métier en parlant du doigt d'honneur puisque
je suis d'accord mais mais dans ces cas-là il faut remettre à l'équilibre, d'autres politiques l'ont fait précédemment
Oui mais il les avait pas sur son plateau, le doigt d'honneur. Que Gilles Boulot l'interroge sur un doigt d'honneur qui avait deux jours, il n'a fait que son métier.
Non mais je suis d'accord, mais dans ces cas-là, il faut parler de tout également, puisque là, on lui a parlé que de son livre, etc. Il n'était pas là pour une critique littéraire. Même si je respecte beaucoup M. Boulot, parce que je pense que c'est un très grand journaliste, je pense qu'il s'est loupé sur son interview, ou bien il a voulu faire le buzz, je ne sais pas.
La seule chose sur laquelle je peux vous rejoindre, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des règles non écrites, évidemment, quand un journaliste reçoit un candidat à la présidentielle, et qu'a priori, je le répète, il est plus là pour l'interroger sur la journée, sur l'événement de la candidature, que de revenir sur d'autres sujets qui ont déjà été traités, surtout s'il n'a que 10 minutes. Voilà.
Oui, voilà.
S'il a une heure, c'est différent. Mais s'il n'a que 10 minutes, effectivement, je peux entendre cette observation.
Moi, je ne suis pas au départ un partisan d'Éric Zemmour. Au départ, j'ai voté à droite. Après, j'ai ressenti que la droite était trop molle dans certaines décisions, donc j'ai voté Marine Le Pen. Et c'est vrai que les idées d'Éric Zemmour me conviennent de plus en plus. Hier, je vous entendais, puisque je vous écoute tous les jours, et je vous entendais hier, puisqu'il y avait une personne qui disait « je ne suis pas raciste, puisque j'ai une amie arabe ».
Oui, c'est là. Je me suis amusé, évidemment, de cette remarque, parce que c'est toujours la limite numéro un.
Moi, je pourrais vous dire la même chose, parce que j'ai un chien noir, à la limite. Mais c'est vrai que moi, je respecte les gens qui respectent mon pays, qui s'appelle la France. Tous ceux qui ne me respectent pas n'ont rien à faire chez nous. Et c'est vrai que sur ce point, les idées d'Éric Zemmour, je les rejoins. Je ne rejoins pas toutes ces idées. Sur les idées par rapport au grand renouvellement, etc. Je ne pense pas.
Au grand remplacement, vous voulez dire. Vous ne partagez pas ce qu'il peut dire sur le grand remplacement.
Oui, voilà. Mais voilà.
Qu'il voit inéluctable.
Je suis de plus en plus convaincu par ses idées. J'ai lu ses livres également. Et il est vrai que je suis de plus en plus convaincu par ses idées. Et j'ai trouvé hier que c'était pas une interview d'un candidat à la présidentielle. Je pense pas qu'on aurait fait la même chose avec M. Macron. Voilà.
Je n'entrerai pas dans ce débat, puisque précisément nous avons posé la question aux auditeurs, et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est traité de la même façon que les autres candidats à la présidentielle?
Non, moi je ne pense pas réellement. Alors maintenant, je pense qu'il faut qu'il s'habitue, parce que je pense que dans tous les médias ce sera malheureusement la même chose, mais il faut absolument qu'il déroule son programme, parce que je pense qu'il a de très très bonnes idées au niveau économique, social, etc.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Restez avec nous parce que Cédric va pouvoir vous répondre. On essaye comme cela de mettre en place des mini-débats, nous aussi, entre des auditeurs qui ne sont pas du même avis, tant qu'à faire. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
L'interview sur TF1 d'Éric Zemmour hier soir a été suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs, près de 31% de part d'audience. Une interview par Gilles Boulot qui a énervé le polémiste à sa sortie.
Monsieur Boulot n'a pas fait son travail. Il y a eu même escroquerie intellectuelle. Monsieur Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères.
Et nous vous posons aussi cette question. Le polémiste a-t-il réussi ses premières heures de candidat à la présidentielle? La vidéo de 10 minutes diffusée hier midi a fait réagir. Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, a donné son point de vue ce matin sur RTL avec Alba Ventura.
C'est une description apocalyptique de la France. Et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que tout chez Éric Zemmour est négatif, désespéré, rabougri, triste, centré sur sa personne. Même quand il fait une interview hier au journal de 20h, il répond à des questions, comme ça arrive, comme je le fais ce matin, puis il sort et puis il dit « on ne m'a pas laissé ma liberté de parole », etc. Tout ça est une mise en scène absolument grotesque, mais surtout, il n'y a jamais de parole d'avenir, de parole d'espoir, de projet pour la France. Il se présente au suffrage des Français et il leur dit « on est foutus ».
Et vous pouvez continuer de réagir au 3210, 3210.
Mais Monsieur Baud, là encore, j'ai envie de lui répondre, si les Français, c'est les Français qui vont décider ? On va voir si M. Beaune traduit parfaitement la pensée d'Éric Zemmour ou si, au contraire, il la caricature. Et c'est les Français donc qui seront amenés à réagir. Et c'est pour ça que ça va être intéressant. Cédric est avec nous. Bonjour Cédric. Olivier donc était un pro-Zemmour d'une certaine manière. Il regrettait, disait-il, que Gilles Boulot soit procureur. C'était ses mots. Et vous, en revanche, vous avez envie d'exprimer une opinion différente.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé M. Boulot à sa place, ni plus ni moins. Je le regarde de temps en temps sur TF1 et je trouve qu'il a été le journaliste qu'on connaît.
J'ai l'impression que la liaison n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes sur un portable, Cédric?
Oui, mais je l'ai à la main.
Vous l'avez à la main?
Ouais.
Bon, bah, écoutez,
j'ai
l'impression que c'est un petit peu, c'est pas extraordinaire. Mais allez-y.
Alors, je vous disais donc, pour moi, M. Boulot a été... dans son rôle, ni plus ni moins, je le suis de temps en temps, et c'est quelqu'un qui est comme ça. Par contre, je ne savais pas, j'ai pris la peine de regarder la déclaration de M. Zemmour à midi, et je ne savais pas qu'entre midi et 20h, on pouvait fracher une virginité, que tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait dit avant, était oublié ou devait être oublié. Moi, je suis fonctionnaire de police depuis 36 ans, et franchement, j'ai peur de laisser la France à une personne comme ça, quoi. Là, franchement, je suis... Je serais inquiet que M. Zemmour arrivait ne serait-ce qu'au second tour. Pour toutes les personnes qui sont à côté de nous, avec nous, je serais inquiet de laisser le pays.
Cédric, on a tenté, mais c'est pas extraordinaire. On comprend ce que vous dites, mais c'est pas confortable. Donc on va refermer avec vous le dossier Zemmour. Il est 13h32 et on va parler de la vaccination dans une seconde. Mais avant, à 13h32, c'est l'instant Facebook.
Exactement, là, c'est beau ça, l'instant Facebook.
Oui, l'instant Facebook avec notre ami Olivier. Alors j'imagine que ça fait beaucoup réagir, forcément Facebook, et c'est très Facebook. Zemmour et c'est très clivé.
Exactement, Dom nous écrit sur Facebook, il est vrai que les journalistes ont parfois du mal à masquer leurs convictions. Micheline, à l'inverse, nous dit j'ai trouvé Gilles Boulot à sa place et Éric Zemmour remis à sa place. On termine avec Jean-Pierre, qu'on apprécie Zemmour ou non, il ne faut pas être dupe, si c'était quelqu'un d'autre, le ton aurait été totalement différent.
C'est intéressant d'écouter les uns et les autres. À 13h33.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
On change de sujet, on parle de la vaccination obligatoire. L'Allemagne imagine la vaccination obligatoire. L'Autriche propose la vaccination obligatoire au-dessus de 60 ans. Patrick Kanner, qui est le chef des sénateurs du Parti Socialiste, l'a proposé tout à l'heure dans notre édition de 12h30. Bonjour Charlotte.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous êtes pour ou contre cette vaccination obligatoire ?
Absolument pas.
Et pourquoi ?
Parce que c'est contraindre encore le peuple français. On est en France, on a ce merveilleux pays où on est normalement en démocratie. On doit avoir le choix de mettre dans notre corps n'importe quel produit. Aujourd'hui,
il y a déjà des vaccinations obligatoires. Il y en a déjà 11 vaccins.
Mais c'est des vaccinations de ce qu'on appelle de routine. Là, celle-là, elle n'est absolument pas de routine, on ne la connaît pas.
Donc vous n'êtes pas vaccinée, par exemple, Charlotte, je le devine.
Si, mais ce n'est pas parce qu'on m'a obligée d'être vaccinée que je suis d'accord.
Ah oui, on vous a obligée parce que vous êtes ambulancière. Donc vous êtes obligée, effectivement, comme personnel soignant, d'être passée par la vaccination. Mais ça s'est bien passé.
Pour moi, ça s'est bien passé, mais en fait, je suis absolument pas contente et je suis pas à l'aise avec ça.
Pourquoi ?
Parce que, en fait, je pense qu'on prend pas le problème par le bon bout. Je vais vous expliquer ma vie d'ambulancière parce que c'est à travers ça, en fait, que je vis la plupart des choses et que je fais vraiment des vrais constats. On va dans des établissements de soins, on nous contrôle nos passes sanitaires. Très bien. Pas celui de nos patients. On les contrôle pas. Alors, quand on leur dit qu'ils ont pas leur passe, c'est pas grave. Ils peuvent y aller, alors que c'est eux qui sont en contact direct avec le personnel soignant. Là, on ne comprend pas. Après, on a essayé de faire d'autres choses. Oui, on contrôle notre passe, on le donne. On dit par contre, on a un peu de la fièvre, on n'est pas très bien. Oui, c'est pas grave, vous pouvez passer. Je ne comprends pas en fait. Le passe sanitaire, il sert à quoi ? Juste à voir qu'on a la vaccination, mais si on a des symptômes du Covid ou de la grippe ou autre, on a droit de passer dans l'établissement de soins. Ça n'a pas de sens. En fait, ce passe sanitaire n'a aucun sens. Donc pour moi, la vaccination n'a pas lieu d'être obligatoire. Après, pour les personnes fragiles, les personnes volontaires, pour moi, il n'y a aucun souci, puisqu'on est dans un pays démocratique. Ça, pour moi, il n'y a aucun problème. Par contre, je pense que ce qui devrait être obligatoire, c'est les tests PCR. Est-ce qu'on est négatif ou positif ? Parce qu'au final, c'est ça la base du problème. C'est qu'on ne voudrait pas que la Covid aille partout dans le pays. Et c'est en ça qu'il faut protéger la France. Et en ça, moi, je vais me battre pour ça. C'est que du coup, les gens qui rentrent dans un établissement, ils sont négatifs ou ils sont positifs ? Parce que vacciner, c'est bien, ils n'auront pas la forme grave. Mais s'ils rentrent dans un établissement alors qu'ils ont la Covid et qu'on ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger et le patient et tous ceux qui vont soigner le patient, ça ne sert à rien, on ne va jamais s'en sortir. Donc rendre la vaccination obligatoire, pour moi, ce n'est pas la solution.
Vous êtes contre. Merci en tout cas d'avoir exposé ce point de vue. On va marquer une nouvelle pause. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Il y a le sujet que j'aime bien, féminin ou masculin. Les deux catégories qui désignent le sexe d'une personne vont être retirées de la carte d'identité en Belgique. Ça, c'est quand même très surprenant, forcément. Il y a les militants des Républicains. Vous avez peut-être commencé à voter. Si vous êtes militant républicain, donc appelez-nous pour nous dire pour qui vous avez voté. On va parler, pourquoi pas, de Noël. On est le 1er décembre aujourd'hui, donc ça, c'est une journée particulière. On entre dans le dernier mois de l'année. Il nous reste 31 jours. Qu'est-ce que vous allez faire le 24 décembre ? Damien Béchiot, vous savez déjà ce que vous faites le 24 ?
Je travaillerai.
Ah, vous travaillez le 24 ? Oui, mais pas le soir.
Je finis à 20h.
Et le soir, vous savez déjà ce que vous allez faire ? Parce que parfois,
ça va être soirée tranquille à la maison et la famille le 25.
Famille le 25, donc c'est intéressant parce que parfois il faut se diviser, les familles sont recomposées ou pas, il faut aller chez son ex belle-mère ou future belle-mère, je n'en sais rien, ou c'est comme cela, donc dans les familles c'est pas facile, et puis les enfants sont pas toujours là, les enfants sont un coup là, un coup chez l'autre famille. C'est ça qui nous intéresse, nous, la vie des familles. 13h37.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Faut-il rendre la vaccination obligatoire contre le Covid-19 en France? L'obligation est déjà votée en Autriche, mais aussi en Grèce pour les personnes de plus de 60 ans. Le Parlement allemand sera appelé à se prononcer d'ici la fin de l'année. Le chancelier est pour. Et chez nous en France, Patrick Kanner, chef de file des sénateurs socialistes, réclame cette obligation. Il était l'invité de RTL Midi.
Il nous reste 6 millions de Français qui aujourd'hui ont décidé, ou de fait ou volontairement, de ne pas être vaccinés. C'est ce que j'ai appelé à d'autres moments une bombe à retardement sanitaire. 6 millions de Français, c'est 10% de la population éligible au vaccin. On ne peut pas prolonger éternellement le pass sanitaire au coup par coup à chaque nouvelle vague, et on est déjà à la cinquième. Rendre la vaccination obligatoire, c'est de considérer finalement qu'il y a une solidarité entre tous les Français.
Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime à l'instant qu'il est temps pour l'Union européenne de réfléchir à la vaccination obligatoire. Elle précise que cette décision relève des États membres.
Michel est médecin et je le remercie d'être avec nous. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Monsieur Pro. C'est toujours un plaisir de vous entendre et encore plus de vous parler.
C'est très gentil. Alors vous êtes pour la vaccination obligatoire, mais pour tout le monde ?
Alors pas du tout. Je crois que l'affiche est un peu erronée. Je suis contre la vaccination obligatoire.
Ah oui, effectivement, parce que sur l'affiche marquée, il faut rendre la vaccination obligatoire. Donc, mais ça peut arriver.
Non, il y a une légère nuance, peut-être qu'elle a pas saisi la nuance. Mmh. En tout cas, oui, je vous appelais, j'étais assez outré par les propos justement de M. Kanner, qui sont sans aucune nuance. Moi, j'ai appelé pour dire qu'il fallait arrêter d'insulter les gens qui ne veulent pas se vacciner, dont je ne fais pas partie. Moi, je fais partie des gens qui se sont vaccinés, qui sont pro-vax, si je peux dire. Mais les gens qui ne se vaccinent pas ont de bonnes raisons et on peut les entendre. Il faut arrêter.
Lesquels, par exemple ?
Alors, lesquels ? C'est qu'ils ont bien compris que le vaccin n'empêchait pas de transmettre la maladie. Donc, on ne peut pas leur dire que c'est des mauvais citoyens.
Non, mais ça diminue quand même, visiblement.
Alors, ça diminuerait. Bon, en tout cas, ce n'est pas suffisamment pour empêcher, pour créer une immunité collective. Deuxièmement, ça concerne une population qui n'est pas à risque, je parle des jeunes, qui sont finalement assez peu malades avec cette maladie, et tout le monde a autour de soi plein de cas qui en ont eu, enfin nos enfants en ont eu, ils n'ont pas été extrêmement malades. Troisièmement, à l'inverse, il y a eu quand même beaucoup d'effets secondaires avec ce vaccin, notamment chez les jeunes, et là pareil, on en connaît.
Ah, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, parce que vous êtes médecin, vous m'intéressez.
Tout à fait, alors je suis malheureusement...
Mais moi, j'entends assez peu parler d'effets secondaires. Vous trouvez qu'il y a plus d'effets secondaires avec ce vaccin qu'avec un autre vaccin ?
Alors moi, en ce qui me concerne, donc, j'ai un âge très avancé, comme je l'ai signalé. J'ai plus de 70 ans et je n'ai jamais vu dans ma carrière médicale autant d'effets secondaires avec un vaccin, personnellement.
Ce que vous dites est terrible. Alors, ce n'est que votre témoignage.
Ah, pas du tout. On a connu le TABDT à un moment qui donnait des réactions également. Quand je parle d'effets secondaires, je ne parle pas d'effets mortels. Hein. Je parle d'effets secondaires qui sont un peu passés à la trappe, à savoir 42 fièvres, malade pendant 3 jours, qui sont peut-être des effets bénins, mais qui ne sont pas si bénins que ça pour des gens qui sont en bonne santé, et notamment pour certains sportifs qui en ont vraiment souffert. Hein.
Oui, mais alors comment vous expliquez ? Il y a des stats là-dessus ? Parce que ce que vous dites, moi je veux bien vous croire, mais je dis souvent ça au micro des gens qui interviennent, je ne peux pas vérifier ce que vous dites au moment où vous le dites.
Il y a même des gens connus qui l'ont dit, enfin, je parle notamment un joueur de tennis français qui l'a signalé. Moi je l'ai vu autour de moi aussi.
Oui, mais ça c'est pas des stats, un joueur de tennis. Je sais même pas à qui vous faites allusion d'ailleurs. Quel est le joueur de...
Jérémy Chardy.
Et il a parlé d'effets secondaires du vaccin.
Oui,
mais des
fait.
Effets secondaires.
Il a arrêté sa carrière pour l'instant. Il a eu les réactions dont je vous ai parlé, qui ont perduré. Il a perdu la forme. Il y a eu également un basketteur, je crois. Enfin, il y a eu plusieurs sportifs. Hein.
Oui, mais tout ça, ce sont des cas individuels.
Alors, on est bien d'accord.
Évidemment.
Alors là, c'est un autre débat. La médecine actuelle ignore complètement les
cas. Il a suspendu sa saison depuis qu'il est vacciné. Jérémy Chardy suspend sa saison à cause d'une réaction au vaccin contre le Covid. Vous avez raison.
Il
était 73e mondial et il a été contraint de suspendre sa saison pour le moment. Alors, c'est vrai que c'était la fin de la saison en tennis. Depuis que j'ai eu mon vaccin, j'ai un problème. J'enchaîne les galères. Du coup, je ne peux pas m'entraîner. Je ne peux pas jouer, a-t-il confié à l'AFP.
Bon, c'est le plus connu, je dirais. Je ne vais pas citer mon cas personnel, mais mon fils, qui est également un sportif de haut niveau, a été extrêmement malade après la deuxième dose de vaccin. J'ai cru que ça allait être beaucoup plus grave que ça. Bon, il s'en est sorti, mais voilà, c'est des gens qui sont en parfaite santé, qui ne seront pas très malades. On a un autre joueur de tennis, Djokovic, qui refuse de se vacciner pour les mêmes raisons. Moi, je les entends. Voilà, c'est ça que je veux dire. On peut les entendre et arrêter d'avoir un discours monolithique. Voilà.
Mais c'est difficile dans tous les domaines aujourd'hui d'échapper au discours. Il y a un politiquement correct dans tous les domaines. C'est ça qui me frappe. Donc il y a aussi un médicalement correct parce que sur la vaccination, effectivement, il y a un discours dominant parce que c'est quand même, et on le voit, on traverse cet automne et cet hiver et ce futur hiver mieux en étant tous vaccinés, ou en tout cas une forte proportion de vaccinés, qu'on ne l'était l'année dernière où on était enfermé.
Oui, certes, mais...
c'est essentiel quand même, il y a moins de monde dans les... également dans les hôpitaux, et les gens qui sont dans les hôpitaux sont des non-vaccinés.
Mais la proportion de gens à risque vaccinés est quand même très importante. Il y a quand même, il y en a un certain nombre, j'ai plus les chiffres en tête, mais la proportion de... Et c'est là où votre standardiste a peut-être mal interprété mes propos. Je lui ai dit que je ne serais pas contre une obligation vaccinale pour les plus de 65 ans.
Bon, vous êtes vraiment médecin.
Ah bah oui,
pardonnez-moi de vous poser la question aussi directement.
Donc, et pour les plus de 65 ans,
bon,
oui.
Vous êtes généraliste ?
Non, je ne suis pas généraliste.
Vous êtes quoi ?
Rhumatologue.
Vous êtes rhumatologue ?
Bon.
Ouais. Et vous êtes toujours en exercice ?
Ah, je ne suis plus en exercice, non. J'ai plus de 70 ans, je ne suis plus en exercice. Hein, mais je suis encore dans le milieu médical, je vois pas mal de gens. Et puis je ne suis pas hors sol, hein, je vois quand même beaucoup de gens autour de moi. Et voilà, donc.
Écoutez, c'est un témoignage. De toute façon, cette émission est faite pour cela. Moi, je prends toujours les précautions oratoires lorsqu'il y a un témoignage qui est différent de ce qu'on entend et du monde scientifique, hein, parce que le monde scientifique ne vous suit pas, quoi. Le monde médical, devrais-je dire, d'ailleurs, n'est pas exactement sur votre ligne. Donc, c'est un témoignage que je ne peux pas vérifier et que je prends comme tel, Michel. Et je vous remercie en tout cas d'avoir appelé.
Puis d'aller voir les stats des effets secondaires du vaccin pour voir qu'ils existent. Hein, je veux dire, et c'est pas le premier. Je veux dire, rappelez-vous, enfin, vous n'êtes pas médecin, donc vous le savez pas. On a eu le même problème avec le vaccin Sabin anti-polio qui était condamné par forme buccale et qu'on a arrêté parce qu'il donnait des polios. Hein. Donc ce serait pas le premier vaccin qui aurait des effets secondaires. C'est ça que je veux dire.
Merci, Michel.
Pour la vaccination des gens à risque, des plus de 65 ans, oui, ça, je le suis, tout à fait.
Merci voilà. En tout cas de votre témoignage. Et puis cette émission, je le répète, doit pouvoir donner la parole à toutes les voix, bien sûr, dans le pays. À tout de suite après la pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier, avez-vous réussi à prendre rendez-vous pour votre troisième dose de vaccin contre le Covid-19, votre dose de rappel? Vous nous le dites au 3210, c'est difficile de trouver un créneau pour certains d'entre vous. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a tenu à rassurer à l'instant.
Je veux vraiment rappeler ce message. Des créneaux vont être remis sur les plateformes pour permettre aux Français, évidemment, de pouvoir faire leur rappel.
Autre commentaire du porte-parole du gouvernement sur le sujet qui inquiète le variant Omicron.
À l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a 13 cas suspects du variant Omicron sur notre territoire. Ce sont des cas suspects, c'est-à-dire pour lesquels un criblage a laissé penser qu'il y avait une possibilité de variant Omicron. Il y a déjà eu des cas suspects depuis la semaine dernière qui se sont révélés négatifs au variant Omicron. Mais évidemment, tous ces cas sont en train d'être séquencés. Ne soyons donc ni dupes ni naïfs. Il y aura très probablement des cas sur notre territoire dans les prochaines heures ou les prochains jours qui seront détectés.
Et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, l'a annoncé. Les vols avec l'Afrique australe reprendront samedi avec un encadrement drastique.
Vaccination obligatoire. Je vous rappelle que l'obligation est déjà votée en Autriche, mais aussi en Grèce pour les personnes de plus de 60 ans. Le Parlement allemand sera appelé à se prononcer d'ici la fin de l'année. Patrick Kanner le souhaite, mais en France, il n'y aura pas de vaccination obligatoire parce que les présidentielles arrivent et que le risque électoral, sans doute, serait trop important. Alain est avec nous, qui habite La Rochelle. Bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde.
Vous êtes retraité.
Oui, c'est pas La Rochelle, c'est l'île d'Oléron.
Ah, l'île d'Oléron. Bah écoutez, on me trompe.
C'est juste à côté.
C'est joli, l'île d'Oléron, en plus. C'est bien, vous habitez l'île toute l'année ?
Ah oui, effectivement, je suis résident à l'île d'Oléron depuis 4 ans.
Ah, ça c'est formidable. Les Iliens, c'est quelque chose, c'est une particularité, être un Ilien. Souvent, je vous envie d'être sur une île, cher Alain.
Eh bien, venez, vous allez voir comment on est bien.
Il y a combien d'habitants sur l'île d'Oléron l'hiver ?
Alors, l'hiver, il y a 30 à 32 000 habitants à peu près. L'été, c'est 350 000.
qui viennent nous voir.
Et la vie, alors, sur l'île, le soir, par exemple, il y a quand même quelques activités. Il y a des restaurants, il y a des cinémas le soir, ou c'est plutôt calme l'hiver?
Disons que c'est plutôt calme. Hein. C'est pas la grande agglomération ici. C'est vraiment encore, disons, la campagne. Et
il y a un cinéma quand même ouvert l'hiver?
Oui, tout à fait. À Saint-Pierre-de-Léron, il y a le cinéma de Dorado qui est ouvert tous les jours.
Il n'y a pas de cinéma à l'île-Dieu, par exemple. Et puis les restaurants, mais c'est plus petit l'île-Dieu. Hein.
Tout à fait.
Moi, j'ai une passion pour les îles, donc je vous envie, Alain. Mais bon, vous n'avez pas appelé pour ça. Donc, vous avez appelé pour la vaccination. Et vous êtes pour ou contre?
Moi, pour la vaccination obligatoire, je suis contre. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut se faire vacciner, il se fait vacciner. Mais j'estime qu'on n'a pas à rendre la vaccination obligatoire.
Pourquoi ?
Parce que j'estime que chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est quand même dans le pays des droits de l'homme. Hein. C'est la liberté individuelle.
Oui, mais bon.
C'est la liberté de la propriété de chacun.
Vous savez bien qu'on n'est pas libre de tout. On n'est pas libre de rouler à 180 à l'heure sur une autoroute.
Tout à fait.
Donc,
là, il y a des lois.
Je veux dire,
il y a des lois.
L'argument de liberté que vous donnez n'est pas, à mes yeux, en tout cas, suffisant.
Moi, c'est comme ça que je le vois, mais je l'entends. Mais effectivement, mais moi, comme je le dis, on ne peut pas obliger quelqu'un à se faire vacciner. S'il n'a pas envie de se faire vacciner, il ne se fait pas vacciner. Voilà, moi c'est ce que je dis, il y a des cas à voir, puis en plus actuellement avec ce qui se passe là, qu'on s'aperçoit que malheureusement même les vaccinés sont touchés avec le nouveau variant, on va se demander.
Ils peuvent être touchés, mais ils vont moins en réa. C'est-à-dire que ce vaccin protège contre les cas graves, et ça c'est, il peut au moins avoir un consensus là-dessus, c'est un des rares consensus qui existe.
Approuvé.
Dites pas approuvé, c'est-à-dire il y a moins de gens aujourd'hui qui sont en réanimation, et ceux qui sont en réanimation sont des non vaccinés.
C'est ce qu'on dit, c'est ce que les médias disent, c'est ce que vous dites. Maintenant, il faut le prouver que les gens ne sont pas vaccinés.
Mais je peux pas le prouver, je vais pas aller à l'hôpital pour vérifier quand même.
Non,
je veux. Si on ne peut pas croire effectivement les gens de la PHP et en général l'hôpital public et la Santé France sont là, on peut plus croire personne. Mais restez avec nous parce que vous connaissez Jean-Alphonse Richard, bien évidemment, Alain, puisque sa voix va jusque sur l'île d'Oléron. Vous connaissez l'île d'Oléron, Jean-Alphonse?
Je connais, c'est magnifique. J'adore cet endroit. Des gens sympas. J'ai toujours été très bien accueilli là-bas.
Il n'y a pas de crime particulier à l'île d'Oléron, en archive ou en magasin, si j'ose dire?
Il y a des crimes partout, donc probablement il y a eu un crime à l'île d'Oléron, ça doit être ancien, et rien qui ne me revienne comme ça, là, en mémoire, immédiatement.
Le programme à 14h30
Ce programme, je vais vous poser une question. Est-ce qu'un chien, peut-il être considéré comme un témoin dans une affaire criminelle?
Si vous me posez la question, c'est oui.
Ah bon?
Si vous me posez la question, autrement vous ne me la poseriez pas.
La réponse est oui, mais on pourrait s'attendre à que ça soit non, évidemment.
Oui.
Un chien, oui, effectivement, il va être cité et confronté.
Cité?
Cité. on ne peut pas dire autrement, puisqu'il va être amené sur les lieux du crime. Il est le dernier témoin à avoir vu une riche héritière.
Et il a parlé?
Vous allez voir, soit se pendre, soit être tué. Ah oui. C'est tout le problème de cette histoire. Lui était présent, le dalmatien Théo. Alors, est-ce qu'il va parler, ou plutôt est-ce qu'il va aboyer, ou est-ce qu'il va reconnaître quelqu'un?
Ah oui.
La réponse dans l'heure du crime.
Ça, c'est bien. Vous vous souvenez, il y a un épisode.
Avec un expert, je rajoute ça parce que ça va vous faire marrer, parce que là, avec un expert, qui était là, un expert des animaux et du comportement animal, qui s'appelle Monsieur Mouton. Ça ne s'invente pas.
Vous vous souvenez de cet épisode dans Columbo où il y a deux chiens été dressés.
C'est un des meilleurs Columbo.
Voilà, qui avaient été dressés pour tuer. Columbo change leur code.
C'est le titre d'ailleurs français du titre de cet épisode, Dressé pour tuer.
Et Peter Falk, Columbo change le code confondre l'assassin.
Je pense, à mon goût, c'est le meilleur Columbo. Il est formidable, ce Columbo.
Est-ce que vous aimez Columbo, monsieur Olivier?
Oui, Pascal, j'adore Columbo.
C'est vrai, mais vous avez le droit de ne pas aimer. Vous l'avez vu, vous savez ce que c'est, Columbo.
Oui, c'est un inspecteur, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est un inspecteur.
Vous fréquentez aussi les restaurants indiens?
Oui, bien sûr, évidemment. Non, mais c'est ça, je ne me trompe pas, Pascal, un inspecteur.
Oui, c'est inspecteur Columbo. Vous savez la particularité de Columbo, c'est-à-dire qu'on sait qui a tué. Et d'accord. Après, on va essayer de savoir comment il va confondre celui qui a tué. C'était tout à fait original.
C'est à l'envers.
C'est à l'envers, si j'ose dire.
C'est peut-être un petit peu trop poussé pour moi. Je pense pas que je peux regarder ça, parce qu'elle pourrait être très honnête.
Avec modération.
Je ne peux pas comprendre.
Bon, dites-nous ce qui se dit.
Allez, sur nos réseaux sociaux, José nous écrit « Je suis contre la vaccination obligatoire, surtout chez les très jeunes. Sylvie lance sur notre page Facebook, on nous force déjà à nous vacciner en quelque sorte, on nous fait du chantage. Et on finit avec Alain. » qui nous confie, comme me dit mon pharmacien, nous sommes en route pour une quatrième dose.
Oui, alors là on est à la troisième, mais effectivement on peut imaginer qu'il y aura une quatrième dose en juin et puis une cinquième dose l'année prochaine. On peut avoir une dose tous les 6 mois. On est dans une séquence où effectivement on n'imagine pas que le Covid va s'arrêter tout de suite. En revanche, ce qui va s'arrêter tout de suite, c'est nous pendant quelques secondes, le flash à 14h et puis la dernière demi-heure des auditeurs. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 14h01. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Après l'Allemagne et le futur chancelier Olaf Scholz qui propose la vaccination obligatoire, c'est la présidente de la Commission européenne qui met le sujet sur la table. Il est temps de réfléchir à la vaccination obligatoire, déclare Ursula von der Leyen, tout en rappelant que cette décision relève des États membres. En France, François Bayrou voudrait un débat sur le sujet, alors que le chef de file des sénateurs socialistes réclame cette obligation depuis des mois. Patrick Kanner était l'invité de RTL Midi. Écoutez, pour lui, le gouvernement a la main qui tremble.
Je crois qu'il y a un manque de courage. C'est vrai que c'est pas très populaire, disons-le simplement. Mais quand on fait de la politique, il faut faire des choix. Et le choix, en l'occurrence, ça doit être celui de l'anticipation. On peut pas prolonger éternellement le pass sanitaire au coup par coup à chaque nouvelle vague. Et on est déjà à la cinquième. En tout cas, rendre la vaccination obligatoire, c'est de considérer finalement qu'il y a une solidarité entre tous les Français.
Sachez que la France annonce une reprise des vols avec l'Afrique australe à partir de samedi, mais avec un encadrement drastique, ce sont les mots employés. Enfin, toujours concernant l'épidémie, les doses de vaccin Pfizer pour les enfants seront disponibles dès le 13 décembre dans l'Union européenne. Dans les Yvelines, le personnel du lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie annonce vouloir exercer son droit de retrait après les événements d'hier, des tirs de mortier d'artifice ayant visé le lycée et l'incendie également d'un véhicule pédagogique. La solidarité des métallos. Plusieurs milliers de personnes sont venues soutenir les 350 salariés de la fonderie SAM à Viviez dans l'Aveyron, un sous-traitant de Renault placé en liquidation judiciaire la semaine dernière. La météo, le temps très instable va se poursuivre demain sur toute la France avec des passages nuageux, des éclaircies et des averses de pluie ou de neige dès 300 mètres dans le nord-est, 600 mètres dans les Alpes et les Pyrénées. Les averses seront plus rares et les éclaircies plus belles entre la Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, du soleil près de la Méditerranée, mais au prix du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80 km/h. Le résultat des courses à Deauville, elles viennent tout juste de se terminer. Le 15, l'As, le 10, le 2, le 14. Le 15, l'As, le 10, le 2, le 14. Vous restez avec nous, hein, Pascal Pro, on a besoin de vous encore.
Ah, vous êtes gentil, Agnès. Ça, c'est gentil. Une après, je peux.
Mais non, je vous parlais de l'émission.
Vous êtes gentil, Agnès. Merci. Merci beaucoup. Et j'aime votre rire. 14h03.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bon, Alain est parti, c'est dommage. Alain qui habite l'île d'Oléron, il est parti. Donc on a terminé sur ce sujet de la vaccination obligatoire. Et on va parler de ce qui se passe en Belgique. C'est pas rien quand même ce qui se passe en Belgique. Les deux catégories qui désignent le sexe d'une personne vont être retirées de la carte d'identité en Belgique. La carte d'identité d'une certaine manière asexuée, je sais pas si c'est le terme exact. Féminin, masculin, ces deux catégories qui désignent le sexe d'une personne n'existent plus. Alors, nous sommes avec François. Bonjour François.
Bonjour, bonjour Pascal.
C'est-à-dire qu'on ne dira, on ne définira plus quelqu'un par son sexe sur sa carte d'identité. Le seul, indice qu'on aura, c'est le prénom.
Oui, alors moi, à titre personnel, ça me pose un problème.
Oui.
Alors ça me pose un problème parce que le genre masculin et féminin, on est bien d'accord qu'ils sont scientifiquement prouvés.
Il y a un moment où on sait très bien qu'un homme est un homme, qu'une femme est un homme, et qu'ils sont désignés.
Ah non, ça c'était le monde d'avant. Qui vous dit que un homme?
Ouais, non, mais
moi,
j'allais vous le dire, Pascal, je vous connais un peu, je pense que vous êtes un homme, mais je pense même qu'on doit pousser, à ce moment-là, on doit pousser la chose en disant que s'il existe réellement, et on le sait, un troisième genre, eh bien, portons-le sur la carte d'identité. Portons-le. Moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'on puisse porter un troisième genre sur la carte d'identité. Ça ne me choque aucunement. Mais par contre, qu'on n'obligère pas ou qu'on n'oublie pas que masculin et féminin existent. C'est dénier quelque chose qui est naturel, qui est fringère, qui n'a jamais choqué personne. Mais par contre, qu'on respecte effectivement l'identité de ce troisième genre, moi, ne me pose absolument pas de problème. Et si on doit le faire figurer sur une carte d'identité, faisons-le figurer. Mais ne nions pas ce qui existe dans les faits.
Alors, je vous lis les explications. La référence au sexe sera bientôt supprimée. Le gouvernement fédéral d'Alexander De Croo a pris l'engagement de lutter contre les inégalités de genre. Les ministres de la Justice et des Affaires intérieures ont préparé un projet de loi visant à supprimer la mention « catégorie binaire, homme ou femme » considérée inconstitutionnelle. En Belgique, nous souhaitons mettre cela en œuvre rapidement.
Et pensez-vous, Pascal, que ça va régler fondamentalement les inégalités hommes-femmes, tant sur le plan professionnel que sur le plan sociétal ?
Je n'en pense rien, si vous me permettez.
Moi, je ne le pense pas. Pour les avoir travaillé en entreprise, on ne règle pas l'inégalité professionnelle homme-femme, qu'elle soit sur le plan salarial, sur le plan social, par la suppression de la mention sur une carte d'identité. Le mal est beaucoup plus profond, il faut travailler de façon beaucoup plus profonde pour faire en sorte que cette égalité existe. Et si le problème, c'est un troisième genre, ça n'est pas un problème.
Figurez-vous qu'ils ont répondu d'une certaine manière, nos amis belges, à ce que vous dites. Les dispositions d'une loi transgenre du 25 juin 2017 ont été jugées déraisonnablement contraignantes et donc discriminatoires par la Cour constitutionnelle belge. En 2019, la Cour a partiellement censuré le texte, estimant qu'il ne permettait pas aux personnes non binaires, personnes qui ne s'identifient ni comme des hommes ni comme des femmes, de s'enregistrer en tant que telles, rapporte le quotidien belge. C'est pour ça ce que vous disiez, le troisième genre, c'était pas suffisant. Pour celui qui est non binaire. Et quand vous m'aviez dit que c'est un homme, j'aurais pu vous répondre, je suis non binaire.
Mais je le suis aussi. Mais à ce moment-là, pourquoi je veux dire, à un moment, on pourra finir par me reprocher de encore porter le nom de mon père, alors que je pourrais porter le nom de famille de ma mère. Ce qui sur le fond ne me pose aucun problème. Mais sur le simple plan homme, femme, masculin, féminin, on ne peut pas nier une réalité scientifique qui existe. Après, c'est un choix d'orientation. Ah oui, mais je n'assimile pas le masculin, féminin à une orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir du tout.
Voilà.
Eh bien, oui, sauf que sur ma carte d'identité, je suis désolé, je m'en excuse peut-être, je suis un homme, c'est comme ça, je plaisante aussi. Moi aussi, je plaisante. Michel Polnareff, je suis un homme.
Je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme. On va la retrouver, voilà. C'est une chanson de Polnareff. Parfois, je pense à ma grand-mère. Parfois. Qui était née en 1907. Et je me dis, si elle est décédée, je pense en 97 ou 98, je me disais, si elle revenait sur Terre et qu'on lui parlait des personnes non-binaires, que dirait-elle? Comment réagirait-elle à ce monde qui, effectivement, peut nous étonner?
Ma grand-mère est née en 1912, elle m'a appris la tolérance. Elle se posait pas la question des non-binaires. Elle regardait les gens tels qu'ils étaient, avec la bonté qu'elle pouvait avoir, et elle jugeait les gens parce qu'ils étaient, parce que la capacité à partager, la capacité à être gens, à vivre ensemble, parce que c'est ça aussi qui compte. C'est la question du binaire ou non-binaire, elle déborde largement, et
sur le fond, c'est quand même des questions graves, et il faut entendre, et c'est tant mieux parce que là, je peux de temps en temps ironiser, mais il faut entendre, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans ou plus longtemps encore,
des gens qui ne se retrouvent ni homme ni femme, donc il faut entendre
et surtout leur permettre de vivre comme les autres. C'est ça qui me paraît le plus important avec tolérance et amour et bienveillance.
Et c'est pour ça que l'apparition d'un troisième genre sur une carte d'identité ne me choque absolument pas.
Je trouvais que c'était intéressant, comme vous, mais c'est pas possible. Alors écoutons Michel Polnareff. Ça doit être une chanson de 72-73. Il avait fait le Palais des Sports et il avait montré ses fesses, figurez-vous. Et on voyait ses fesses, et ça avait fait un scandale absolu. C'était il y a 50 ans. Hein.
1970, Pascal.
Même 70, ça, oui. Vous vous rendez compte, ça fait 51 ans. Mais Paul Naref, c'est exceptionnel. Hein. La voix, rien à... C'est un mélodiste, la voix... Enfin, je ne vais pas dire que c'était mieux avant, parce qu'après, je vais me retrouver dans un clip d'un candidat de la présidentielle. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur Olivier ?
Ah, pas du tout, Pascal, j'étais en train de vous regarder. Ah, ça va très bien, merci.
Je vous remercie. Merci, François.
Merci Pascal.
Merci vraiment, merci
au
beaucoup.
Revoir.
La pause et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes la minute.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 14h12, nous sommes avec Yann sur ce sujet de la Belgique. Les deux catégories qui désignent le sexe d'une personne vont être retirées de la carte d'identité. Bonjour Yann, vous êtes commercial, vous habitez Paris.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors j'ai cru que c'était une blague belge au début. Et puis alors j'ai vérifié en vous attendant et je me suis rendu compte que c'était pas une blague. Et moi je trouve ça tragique à deux titres. La première, c'est une négation de notre altérité. C'est une négation de notre humanité. Et puis la deuxième, c'est de constater en fait que ce politiquement correct, dont le synonyme c'est la tyrannie des minorités, fait qu'il y a 10 000 personnes, peut-être 20 000 personnes maximum, qui vont ou essayent d'obtenir quelque chose d'insensé, qu'auront à subir 67 millions de Français, puisque évidemment ça arrivera à un moment ou un autre, à un moment ou un autre en France. Donc moi je vais me retrouver potentiellement avec mon identité retirée sur ma carte d'identité.
Ce qui, donc, au fond, d'ailleurs, ne change pas grand-chose, hein, pour tout vous dire, qu'est-ce que ça peut faire, mais c'est symbolique, vous voyez.
Oui, mais alors, Astralin, Pascal, si vous voulez, les poulpes qui sont très malheureux de ne pas s'appeler poissons, on va se retrouver, on n'appellera plus les poissons rouges.
Non, mais parce qu'on
poissons
en parle, rouges, en fait. Mais, bon, mais on en parle, mais ça va pas changer ma vie. Moi, si on m'enlève, je trouve que la société est folle, pour tout vous dire, que ça devient effectivement, enfin, quoi, folle, c'est pas le mot peut-être, mais en tout cas, on est aujourd'hui. Parfois on prend des pistes qui me surprennent, mais bon, au fond, ça va pas changer ma vie si sur la carte d'identité c'est pas marqué masculin ou féminin.
Alors pour faire écho,
mais je voudrais que ça soit utile, surtout je voudrais que ça ait un sens.
Ouais, si vous voulez, ça correspond à une toute petite minorité, c'est les gender fluids, les non-binaires, les agents, les pansexuels, les queers et les trans. Encore une fois, c'est quelques milliers de personnes qui vont imposer à la totalité de la population quelque chose qui, en termes de sens, est aberrant, si vous voulez. Et alors, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à votre grand-mère, puisque vous aviez eu la gentillesse de vous en parler. Moi, la mienne, elle était née en 1892, et de temps en temps... Si, elle est morte très âgée.
Rendez compte, si elle revenait sur Terre, comme elle serait surprise.
Elle en parlerait de choses avec votre grand-mère, croyez-moi.
Ah oui.
Et alors, elle me disait toujours, mon petit Yann, la tolérance, il y a des maisons pour ça.
Mais donc, je connais cette phrase.
C'est du domaine privé, tout ça. C'est du domaine privé. Qu'ils arrêtent de nous faire subir leur névrose. J'ai regardé la définition du mot névrose, hein, Pascal. Hein.
Ouais.
C'est une affection. Une affection caractérisée par des conflits qui inhibe les conduites sociales et qui s'accompagne d'une conscience pénible des troubles. Donc je pense que c'est un terme, aussi choquant qu'il puisse paraître en première écoute, est en fait correspondant exactement à cette minorité. Donc bien leur en face, ils vivent ce qu'ils veulent, ils changent de sexe, ils font ce qu'ils veulent et autres, mais que ça reste dans le domaine privé, on change pas le code.
Est-ce que vous savez qui a dit la tolérance, il y a des maisons pour ça ?
Écoutez, j'ai cru que c'était ma grand-mère, mais si vous me posez la question, c'est que c'est pas tout à fait vrai.
Eh bien non, c'est Paul Claudel, figurez-vous, puisque je viens de taper, c'est formidable Internet, on tape une phrase et puis on a immédiatement qui l'a dit. Donc ce n'était pas votre grand-mère, la tolérance, il y a des maisons pour ça, Paul Claudel. Bon, Paul Claudel, on ne le lit plus beaucoup, hein. C'était un dramaturge. Il avait fait un jour... une pièce un peu longue qui s'appelle Le soulier de satin, je crois qu'elle a duré 4h30. Et en sortant, Sacha Guitry a dit heureusement qu'il ne nous a pas fait la paire.
Et Claudel, autant que je me souvienne.
C'est un catholique, il était allé devant un pilier, il avait eu la foi à Notre-Dame en entrant dans la cathédrale de Paris.
Et autant que je me souvienne, Claudel, ce qui ne manque pas de sel dans notre sujet de ce midi, il fait partie de la fanfare, autant que je me souvienne.
Alors ça, en revanche, retirez ça, parce que c'est pas bien, et je cautionne pas ce que vous venez de dire. Et puis, on ne définit pas quelqu'un par rapport à son orientation sexuelle. Donc, je retire pour vous ce mauvais trait d'humour que je ne trouve pas forcément amusant. En revanche, je salue Olivier.
Oui.
De nouveau.
Encore une fois, bien sûr, je ne parle pas.
J'imagine que ça fait partie de vos auteurs de chevet.
Exactement, parce qu'avant de dormir, c'est important quand même.
Oui, bah même parfois, ça peut favoriser.
Allez sur nos réseaux sociaux. François nous écrit: tant qu'on y est, retirons même les cartes d'identité pour Bernard. Biologiquement, ça ne tient pas la route. Où est la limite? Et on finit avec Agnès. Pour elle, c'est une révolution. Ça va grandement aider ceux qui se sentent exclus dans la société.
On va marquer une nouvelle pause, peut-être à 14h17. On n'écoute plus de chansons, ou si peu, monsieur. On pourrait faire un programme de Noël jusqu'à la fin du 24.
On fait ça à partir de demain, Pascal.
On n'avait pas fait ça l'année dernière.
Si.
Hein, je me souviens, c'était on faisait, je crois que c'était notre
dernier auditeur qui choisissait la chanson de Noël du jour.
C'était le Noël du jour, ça serait pas mal.
Ça à partir de demain.
Ça, on est le 1er décembre. Moi, je pense qu'on pourrait le faire à partir d'aujourd'hui. C'est le 1er décembre.
Allez, on retourne au pub.
C'est vous qui allez faire votre liste de Noël. Ah. Voilà, vous allez nous proposer tous les jours, Damien Béchiot, une chanson de Noël.
Parfait.
Ça vous va? C'est vous le chef.
Parfait.
Vous êtes le chef Noël. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
C'est une chanson, Pascal.
Ah bah oui, fallait me prévenir, c'est la chanson que vous avez choisie.
Tout à fait, Frank Sinatra.
Frank Sinatra, merveilleux, c'est Jingle Bells?
Tout à fait.
Jingle bells, jingle bells.
Donc tous les jours à 14h20, avant le dernier auditeur.
Oui.
C'est la règle.
Ça vous va?
C'est parfait.
Parfait.
Il faut une règle et...
C'est noté.
Elle est inchangeable. Ossine est là. Ossine qui voulait réagir sur la carte d'identité belge. Bonjour Ossine.
Bonjour Pascal Pro. Oui, en fait, j'avais un petit témoignage à apporter qui se raccroche un peu à votre sujet. C'est parce que vous dites que les symboles n'ont pas beaucoup d'importance, mais pour moi, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Vous dites qu'on peut s'arranger de tout, mais non, parce qu'on se réveille un bon matin, puis on est dans un autre monde. Là, la semaine dernière, par exemple, j'étais en train de demander, vous savez, un acte de naissance à ma mairie de naissance. Voyez,
oui.
Et j'ai utilisé un service, tout ce qu'il y a de plus officiel, un service gouvernemental qui s'appelle servicepublic.fr, que tous les auditeurs connaissent certainement. Et donc, lorsqu'il m'a fallu renseigner la rubrique de mes parents, puisque évidemment pour un acte de naissance, il faut renseigner le nom de votre père et le nom de votre mère, je me suis trouvé face aux mots parent numéro 1 et parent numéro 2. Alors là, pour moi, c'est l'abomination de la désolation, c'est terrible. Parce que la dernière fois que j'avais fait ça, on ne me demandait pas parent numéro 1, parent numéro 2, on me demandait mon père et ma mère. Alors si vous voulez, je ne veux pas entrer dans un tourbillon de malentendus, parce qu'alors évidemment, là c'est l'homophobie qui nous guette tout de suite. Mais je veux dire, qu'est-ce qui empêchait les services officiels de mettre par exemple père et entre parenthèses parent numéro 1? Vous voyez, ça ne me dérange pas. Et mère, parent numéro 2, par exemple, vous voyez. Mais là, moi, chaque fois que je faisais ce genre de démarche, j'avais le souvenir de mes parents. Vous voyez, je suis un vieux monsieur, maintenant j'ai 62 ans. Ça me rappelait le souvenir.
62 ans,
de...
c'est pas vieux monsieur, faut pas exagérer.
Oh, bah oui, non, enfin, je veux dire. Non, mais vous vous rendez compte, vous disiez vous-même tout à l'heure, je vous ai écouté avec attention, que les symboles n'ont pas beaucoup d'importance. Très important.
Évidemment,
ça détruit notre environnement. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec l'un de vos auditeurs qui disait que on est obligé, parce que les familles homoparentales, je les respecte tout à fait, je sais que ça existe.
Ah oui.
Je sais que ça existe, mais je veux dire, il y en a peut-être combien en France? Il y en a peut-être 100 000.
Des familles monoparentales?
Non, homoparental. C'est pour elle qu'on a fait ce parent numéro 1 et parent numéro 2.
Ah oui, je
ne
peux pas vous dire. Bon, merci en tout cas, Ossine, parce qu'il est 14h23, ça va être l'heure du débrief de l'ami Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. par Laurent Tessier.
Aujourd'hui, dans l'émission, un sujet a retenu votre attention.
De qui parle-t-on du matin au soir ? C'est Zemmour.
Oui, Éric Zemmour est-il, selon vous, traité de la même façon que les autres candidats à la présidentielle ? À peine sorti du 20h de TF1 hier soir, il s'en est pris au présentateur Gilles Boulot qui venait de l'interroger.
Monsieur Boulot n'a pas fait son travail. Il s'est révélé un procureur pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, il y a eu maldonne. Il y a eu même escroquerie intellectuelle. Monsieur Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères.
La réaction de Charles pendant l'émission.
Il me faisait une joie d'ailleurs d'avoir une interview à peu près posée, à peu près objective. Et effectivement, une déclaration de candidature, c'est toujours un moment important pour la démocratie. Et là, j'ai trouvé quelque chose, pour moi, c'était ni du journalisme, ni de l'objectivité, ni quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était très partisan.
Un avis opposé, celui de Jamel.
C'était une interview totalement ratée pour lui. Pour moi, c'est un sketch de Z. Et hier, il a clairement prouvé que le costume est un peu trop grand pour lui, je pense.
Et aujourd'hui, nous sommes à vos souhaits, Pascal. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Noël approche. Imagine déjà autour du chapon, de la dinde, des huîtres, du saumon, chapon. De la bûche.
Du chapon.
Oui, faites-nous rêver, Pascal. Tiens, avec le programme de Damien, notre réalisateur.
Qu'est-ce que vous allez faire le 24 décembre, Damien Béchiou? Vous savez déjà ce que vous faites le 24?
Je travaillerai.
Aïe, aïe, aïe. Bon, comme le calendrier de l'Avent où nous aurons chaque jour la petite fenêtre avec le chocolat, ouvrons chaque midi une question spontanée à Olivier, Monsieur Boubouk avec Benjamin en premier. Jingle, Damien.
La question inattendue de Benjamin Sportouche.
Ah, Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL. Une question, Benjamin, monsieur Boubouk.
À quoi sert un pénis?
Benjamin, s'il vous plaît, nous sommes écoutés. Non, allez-y plutôt, Pascal.
Est-ce que vous aimez Colombo, monsieur Olivier?
Ah, question sensible, faisons un peu monter la pression avec la voix du crime sur RTL. Teasing, Jean-Alphonse, avant la réponse d'Olivier.
Alors, est-ce qu'il va parler? Ou plutôt, est-ce qu'il va aboyer? Ou est-ce qu'il va reconnaître?
La réponse, qui est Colombo?
Oui, Pascal, j'adore Colombo.
C'est vrai, non, mais vous avez le droit de ne pas aimer, vous l'avez vu, vous savez ce que c'est Colombo?
Oui, c'est un inspecteur, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est un inspecteur.
C'est un bon début, une bonne réponse pour démarrer notre calendrier des questions pièges. Et comme c'est bientôt Noël, une petite blague, Jean-Alphonse, sur Colombo.
Vous fréquentez aussi les restaurants indiens?
Oui, bien sûr, évidemment.
Merci Jean-Alphonse, une révélation tient exclusive sur vous Pascal avant de terminer l'émission.
Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme.
Alors si vous le dites, insistons encore pour que tout le monde soit sûr.
Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme.
Vous avez mis l'eau à la bouche avec cette histoire de chien,
le chien
va venir, qui est cité à la barre.
Pas à la barre, il va être cité sur une scène de crime. Est-ce
formidable.
Il est le seul témoin d'une femme qui s'est peut-être pendue ou qui a été peut-être tuée par quelqu'un. Donc lui seul aurait vu ce qui s'est passé.
Oui.
Bien, le juge va décider de l'interroger, c'est beaucoup dire.
Oui.
En tout cas, de le confronter au meurtrier.
Les bonnes histoires de papy,
supposé.
De papy Jean-Alphonse.
À tout de suite.
À tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.